Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à 22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Bienvenue sur YouTube à ceux qui nous rejoignent bien sûr, exclusivité YouTube également sur les applis RMC et RMC Sport, les drôles de dames avec Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet, rejoignez-nous, hein. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube @after-foot pour nous voir, vous abonner également et puis commenter.
On a un physique YouTube aussi je trouve, non?
On a un physique YouTube, ça veut dire quoi? C'est moins gros que la télé.
On n'est pas que une voix de radio, tu vois.
Je le prends un peu mal quand même, fut un temps j'ai presque un physique télé, c'est terminé.
Non, justement nous avons un physique télé, YouTube c'est de la télé.
C'est vrai, t'as raison. En plus, sans maquillage, les amis.
Brut de décoffrage. Bien
bronzé, dis donc. Des coffrages. Bon, un jour, on mettra des caméras chez Polo et chez Julien non. Également. Je savais qu'il allait dire ça.
On verra.
Qui sort du cœur. Non.
On verra Polo faire du vélo et on verra Julien faire des coquilles avec nos enfants.
Je pense qu'un jour, en tout cas, il devrait nous envoyer des photos parce que nous intéressait beaucoup d'auditeurs de l'After de savoir que font Julien et Polo pendant l'émission. Mais ils écoutent déjà quand même.
Bah oui.
Ils écoutent, j'ai l'impression.
On participe,
ils se marrent l'autre à distance.
De temps en temps.
Bon, on est sur YouTube, donc on a même plus de liberté par rapport au timing, plus de temps pour en parler ensemble. Des pauses réduites, évidemment. Tiens, parlons de la finale de la Cup. Julien, avec toi, étonnant succès de Manchester United sur City. Est-ce qu'il y a, alors je pose une question avant qu'on parle du match, une possibilité que Erik Ten Hag sauve sa tête grâce à ce titre?
Oui, alors il y a toujours une possibilité, Nico, même si ça semblerait quand même que la décision ait été prise, qu'il soit viré à un an de la fin de son contrat, donc après deux saisons simplement au club, il semblerait que Sir Jim Radcliffe et Brailsford et Jean-Claude Blanc et toute la nouvelle hiérarchie et direction du sportif à United en aient décidé ainsi. C'était intéressant, par exemple, d'entendre André Onana avant la finale, expliquer que même en cas de victoire, ça ne sauvait pas la saison d'United. Ça ne sauve pas la saison d'United, ça ne sauve pas non plus la tête de Ten Hag. C'est un peu comme ça. Tu ne vas pas juger non plus la saison sur un match, sur cette finale, même si United a bien joué, même s'ils ont joué avec beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation. Ils ont eu un peu de réussite, bien sûr, parce que la rencontre bascule sur le premier but, qui est une énorme erreur entre Gvardiol et Ortega, qui offre le but à Alejandro Garnacho. Si ça reste 0-0, je ne sais pas ce qui se passe après, mais en tout cas, United avait été déjà très bon jusque-là, il faut le souligner. Ils avaient joué avec beaucoup de solidarité, le retour de Varane et de Lisandro Martinez en défense centrale a fait beaucoup de bien, même si c'était une tactique, on va dire, un petit peu défensive, mais c'était logique face à ce Guardiola, à ce style-là de Guardiola, de jouer comme United l'a fait. Ils ont joué très compact dans l'axe. J'étais très déçu par la tactique de Guardiola qui pour moi s'est trompé de ne pas avoir fait débuter soit Grealish soit Doku. Doku est entré à la mi-temps, c'était trop tard déjà, même s'il a fait quelques différences en seconde période, c'était un petit peu trop tard. Et au final, victoire pour Ten Hag, deuxième trophée pour lui en deux saisons à United, la Coupe de la Ligue la saison dernière, la Coupe d'Angleterre cette saison-là, qui sauve aussi la saison dans le sens où ça offre une place européenne à Manchester United en Europa League la saison prochaine, alors qu'ils ont fini 8e en championnat, leur pire résultat dans l'histoire de la Première Ligue. Et donc par le championnat, pas qualifié en Coupe d'Europe, ils le sont par le biais de la Coupe d'Angleterre. Très bien, malheureusement pour lui, je pense que ça ne suffira pas. Et donc, on aura un autre entraîneur sur le banc de Manchester United à Old Trafford la saison prochaine.
Ten Hag dit effectivement, s'ils ne veulent plus de moi, j'irai ailleurs pour gagner des trophées parce que c'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière. Un peu vexé, blessé. Polo, vas-y.
Mais c'est génial ce que dit Julien parce que quand même, il gagne deux trophées. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on met une forme de hiérarchie dans les trophées et puis le système tel qu'il est construit ne favorise pas les coupes nationales ou les ligues, etc. Mais quand même, quoi, t'as plus le droit de te planter dans ces grands clubs ou ces gros clubs qui ont un palmarès long comme le bras. Le Bayern fait plus de points que l'année dernière où il était champion. On considère, comme ils n'ont pas gagné, que c'est une mauvaise saison. Le Manchester United, dans le championnat qui est le plus concurrentiel au minimum, dans le haut du classement, finir 8e in fine, est-ce que c'est si dramatique que ça par rapport à la qualité de certaines équipes anglaises? Je n'en suis pas persuadé. Et en plus, ils vont chercher. Et ça fait que ça devient quand même de plus en plus compliqué pour les coachs d'essayer de se construire dans la durée, en fonction des pays. Je veux dire, j'imagine même pas aujourd'hui le Real avec 3 défaites à la suite, quoi. Je sais pas ce qui va se passer s'il y avait ça. Qu'est-ce que c'est que trois défaites à la suite sur une saison finalement? Il y a des choses comme ça, moi, qui me.
C'est pas forcément qu'en termes de résultats, je sais pas si je me trompe, Julien.
Oui,
c'est ce qu'il a proposé, ce qu'il a construit sur deux saisons, sur les prévisions, l'évolution de son travail.
Oui, alors la première a été plutôt bonne parce qu'il était quand même arrivé dans une situation un peu de crise. Après tout ce qui s'était passé, les expériences de Rangnick, de Solskjaer, même de Mourinho avant ça. La saison dernière, ils finissent troisième, ils gagnent cette Coupe de la Ligue. Ils sont battus par City en finale de la Coupe d'Angleterre. Donc c'était la deuxième finale de suite entre les deux clubs de Manchester. Cette saison, moi, j'ai trouvé qu'il l'avait abordé avec suffisance déjà. Qui s'était dit, voilà, on m'avait dit que c'était l'enfer, Old Trafford, que c'était, personne ne pouvait réussir à ce poste-là. Ben, regardez ma première saison, et je pense qu'il a attaqué cette deuxième saison avec un peu de légèreté, sincèrement. Ensuite, il a eu beaucoup de blessés, ça c'est sûr, il faut le reconnaître et l'admettre. Mais quand même, dans le contenu des matchs, dans les performances tactiquement aussi. Alors, Johan et moi, et Polo, qui le connaissions soit de l'équipe réserve du Bayern, soit bien sûr à l'Ajax. On était des grands fans quand il est arrivé à United. Cette saison, je suis désolé, j'ai vu plus d'espace entre sa défense et son milieu de terrain que j'ai jamais vu dans une équipe de ce niveau-là depuis très très longtemps. Voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas du tout. Et c'est pour ça que finalement, on est là à parler de son avenir à lui, d'avoir ce débat sur son futur. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été insuffisantes cette saison, malgré les blessures, malgré ce qui s'est passé lors de la première saison, c'était pas assez bon. Et lui l'a reconnu. Et ce qui m'a gêné le plus cette saison, finalement, et j'en avais déjà parlé, je vais pas trop en faire non plus sur Ten Hag, c'est que même lui a été dans le déni finalement. À chaque conférence de presse, surtout depuis l'arrivée d'Ineos, c'est comme s'il essayait de convaincre ses nouveaux patrons qu'il fallait le garder absolument. Donc c'était un inventeur, il racontait des histoires, il inventait des trucs, il racontait des choses dans ses conférences de presse qui n'étaient pas vraies, comme par exemple on est l'équipe qui presse le mieux dans le championnat. Bah non, c'est pas vrai, on a les stats qui peuvent montrer que c'est pas vrai. On est l'équipe la plus spectaculaire. Bah non, c'est pas vrai non plus. On est celle qui se crée le plus d'occasions. Bah non, c'est pas vrai non plus. Donc, et à chaque fois, il rajoutait un truc qui n'était pas vrai. Et je pense que ça, il a pensé que ça pouvait lui servir, finalement, pour convaincre Radcliffe et les autres de le garder. Et au final, sincèrement, je pense que ça a été contre-productif.
Et Julien, bon, encore j'ai une question. Est-ce que tu ne penses pas que ces coachs qui ont souvent des égos aussi importants, sinon plus que beaucoup de joueurs qui sont des stars, refusent de voir la vérité ou refusent de voir leur propre évolution parce qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'eux qui ont le savoir. Bon, Ten Hag, évidemment, on n'imagine pas ce que Ten Hag représentait il y a encore quelques années au Bayern. Le fait d'être passé, le fait de l'école néerlandaise, etc., on l'a souvent récupéré. Aujourd'hui, on ne parle même plus de lui. On l'a évoqué rapidement pour le Bayern, mais on n'en voulait pas. Alors que le gars était, il y a encore quelques années, considéré comme le top 3 des nouveaux entraîneurs qui arrivaient sur le marché pour les grands clubs. Aujourd'hui, voilà. Mais moi, ce qui me frappe, parce que Tourelle est un peu pareil, parce que d'autres qui ont échoué, Hansi Flick est un peu pareil, c'est que quand ça marche pas, c'est toujours les autres.
C'est pas de leur faute, exactement.
Il y a un truc là-dessus, moi, qui me...
Une forme d'arrogance, ou alors c'est de la communication. Vas-y, Julien.
Pour ces grands clubs-là, et c'est pour ça que cet été, c'est très possible que Conte... Alors, Conte pourrait rebondir à Naples, mais bon, je pense que ces clubs-là, maintenant, ne veulent plus d'un entraîneur qui se veuille tout puissant, qui soit au-dessus de tout, comme un Ferguson, comme un Wenger, voire comme un Guardiola encore, bien sûr, ou même un Klopp pendant les 9 saisons à Liverpool. Mais pour moi, de plus en plus, on ira vers des clubs qui choisiront des entraîneurs qui travailleront dans une structure, qui seront très contents dans cette structure-là et qui voudront plus se sentir au-dessus de tout le monde.
Et qui seront plus dociles.
D'où l'échec de Pochettino à Chelsea, par exemple.
D'accord, exactement. Alors justement, Pochettino, puisque tu en parles, c'est la transition. Il est fortement pressenti pour prendre la succession de Ten Hag à United. Sitôt licencié, sitôt en poste, peut-être pour lui. Est-ce que tu confirmes, Julien?
Oui, il fait partie de la shortlist avec Thomas Tuchel, par exemple, qui a été très, très apprécié à Manchester United. Kieran McKenna, qui est donc l'ancien entraîneur adjoint de Mourinho, de Solskjaer, qui a fait un excellent travail avec Ipswich, puisqu'il les a fait monter de 3e division en Championship, ensuite du Championship en Premier League cette saison-là. On en a beaucoup parlé, jeune entraîneur avec beaucoup, beaucoup d'idées, qui, lui, est très content de s'inscrire dans la structure. Lui, il ne veut pas être le tout-puissant au-dessus de tout le monde, l'entraîneur qui doit te dire oui pour que si tu veux acheter un stylo pour le centre d'entraînement ou tu veux. Lui, il n'est pas du tout comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qu'il va peut-être rechercher Manchester United, plus qu'un Pochettino, plus qu'un Tuchel, qui eux sont encore un petit peu dans ces personnalités-là. McKenna, c'est différent. Roberto De Zerbi aussi sur la liste, mais un petit peu décroché par rapport aux trois autres. Mais on pourrait voir effectivement Pochettino rebondir tout de suite de Chelsea à United, même si je pense qu'aujourd'hui, McKenna est le favori pour tout ce qu'on vient de dire, pour s'inscrire dans cette structure-là, pour ce qu'il pourrait apporter sur le long terme, sa volonté de faire évoluer les jeunes aussi, un Mainoo, un Garnacho, etc., etc. Et donc ça pourrait, je pense que ça, McKenna pourrait très bien fonctionner aussi.
C'est intéressant ce que dit Julien, cette tendance là de certains gros clubs, alors pour le coup en Angleterre, ça m'intéresse de savoir si c'est un ressenti chez vous également, ces gros clubs qui désormais ne veulent pas donner tous les pouvoirs à un coach. Terminer l'ère des super managers hein, qui disent oui, qui disent non, qui décident de recrutement, qui bossent avec son entourage. Johan, est-ce que c'est le cas chez toi en Italie aussi?
C'est totalement le cas, c'est même plus que le cas puisque on a des clubs qui ne voulaient pas travailler avec Mourinho et Conte cet été, tout simplement parce qu'ils ne savent jamais à quel moment de la saison les mecs vont péter un câble. Et les dirigeants ne sont plus prêts aujourd'hui. On dit toujours, comme dirait Kylian, le football il a changé, donc les joueurs ont changé, le jeu a changé, les entraîneurs ont changé, mais les dirigeants aussi ont changé. Et aujourd'hui, nous en Italie, le foot des familles, des grandes familles italiennes n'existe plus ou quasiment plus. Donc il faut que ces entraîneurs-là aussi comprennent que, notamment avec l'afflux de dirigeants étrangers, de propriétaires étrangers, qui voient le football de manière un petit peu différente, le gagner à tout prix n'existe plus en Italie. Ce n'est plus possible aujourd'hui de dire « voilà les clés du camion à un entraîneur, t'inquiète pas, on va te suivre sur tout ». Ça n'existe plus nulle part en Italie. Donc il y a des entraîneurs aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés à retrouver un club en Italie parce que ces propriétaires-là voient le football et le poste d'entraîneur une figure. En Italie, on dit aziendalista, c'est-à-dire comme un, vous savez, la figure de salarié qui respecte un peu son patron. C'est-à-dire que finalement, il y a un rapport hiérarchique et aussi un rapport de respect à avoir vis-à-vis de son patron. Et on recherche ce type d'entraîneur-là, c'est-à-dire un entraîneur qui ne va pas dire oui à tout, mais qui ne va pas te dézinguer devant les micros à la fin d'un match.
Fred.
En Espagne, de toute façon, il n'y a pas ce rôle de manager, ça n'existe pas.
Ancelotti, par exemple, lui n'est pas un grand manager.
Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide.
Il accepte les joueurs qu'on lui donne.
Mais ils sont tous comme ça en Espagne. Ça. Parce que même, alors, il y a un exemple qu'on pourrait présenter comme contre-exemple, qui est Simeone. Oui. Mais pas tant que ça. Parce que quand il fallait laisser Griezmann sur le banc pendant 25 matchs parce que ça permettait à l'Atletico de payer moins cher au Barça, etc., et ben il s'est privé de Griezmann. Donc voilà, sous César, il a...
Mais les présidents ont plus de pouvoir chez toi aussi, parce que ce sont les socios qui élisent les présidents.
Aussi, ça aussi.
Et ce sont les présidents qui rendent des comptes plus que les entraîneurs.
Et c'est lui qui joue sa tête. Donc voilà. On a parlé de Xavi tout à l'heure. C'est ça, finalement, c'est le président qui décide. C'est lui qui a le mandat des socios. Donc on n'est pas du tout... On est pas du tout en Espagne dans cette logique-là.
Polo, tu ressens ce glissement chez toi ou traditionnellement est-ce que...
Ah non.
Vas-y.
En fait, c'est très spécial parce que le Bayern, par exemple, est l'exemple type, excepté la période Guardiola 2013-2016, où les coachs se plaignent de l'omniprésence, de l'omnipotence dans les bureaux, d'Uli Hoeness, Rummenigge, du directeur sportif qui sort des phrases à tout le temps. Moi, c'est quelque chose, c'est une vraie différence avec la France, par exemple. J'ai pas envie de comparer avec les autres pays européens, mais je peux vous assurer que les directeurs sportifs, lorsqu'ils sont pas contents en Allemagne, ça sort et ça balance à la Kalachnikov, quoi. Ça y va d'une façon extrêmement violente. Nagelsmann se plaignait, il dit « je peux pas rester 15 jours tranquille ». Le recrutement, ce n'est pas eux. Le seul qui a réussi à le faire, c'est Guardiola entre 2013 et 2016, pour une question bien spécifique, c'est qu'il y a eu l'effet Pavarotti. C'est-à-dire que le Guardiola n'arrivait pas seul en tant que coach, il arrivait évidemment avec tout son staff, et il a viré d'ailleurs tout le monde, tous les Allemands qui étaient là-bas pour ne mettre que des Espagnols, mais surtout, il y avait des sponsors qui débarquaient parce que le Bayern était devenu super attractif au niveau de la globalisation avec Guardiola. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend des clubs et de la structure des clubs. Il y a des personnalités, alors maintenant, tout le monde l'a oublié en Allemagne, où les jeunes ne savent pas qui c'est, mais un Félix Magath ultra présent et qui lui veut être manager à l'anglaise, faire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'aujourd'hui ça n'existe plus dans les clubs? Donc, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Bayern Munich, c'est l'inverse de la tendance qu'il y a eu pendant des années.
Voilà. Tiens, Julien, au passage, tu voulais nous dire quelque chose concernant Kieran McKenna. A priori, ce ne sera pas lui, donc à United.
Oui, il pourrait prolonger effectivement à Ipswich. Ce sera un gros coup de la part d'Ipswich hein, parce qu'il était vraiment très suivi. À Chelsea, on avait parlé un petit peu, même si maintenant il n'est plus dans la shortlist. Ça devrait être Enzo Maresca qui devrait prendre la succession de Pochettino. On en reparlera dans les émissions plus tard quand ce sera officiel. Mais Kieran McKenna qui pourrait rester à Ipswich, ce serait vraiment bien pour Ipswich parce que ce serait une grosse perte pour eux s'il partait. Et donc, forcément, ça pourrait rapprocher Pochettino aussi du banc. novembre de Manchester United.
On prendra le temps à l'avenir de présenter Enzo Maresca, italien, ancien de Leicester, bien sûr, peut-être ancien de Leicester, ex-assistant de Guardiola.
Et autre disciple de Guardiola, City, bien sûr.
Exactement.
Ça va commencer à faire beaucoup de disciples de Guardiola.
Il a vu les U23 à City, puis il avait été l'adjoint, de, je crois, 2022-2023 de Guardiola à City.
Il a été à Parme aussi, Maresca.
Oui, ça n'a pas très bien marché.
Non, d'ailleurs. Exactement.
Puis c'est un joueur dont on se souvient également, quoi, qui a ses 400-500 matchs professionnels. Enzo Maresca. La première minute de la soirée, elle est espagnole. C'est parti, Fredo. Nos vimos tres o cuatro veces
por toda la ciudad. Vous avez reconnu, c'est Mécano. Mythique groupe espagnol des années 80-90.
Mécano.
Le groupe Mécano.
Ouais. La fuerza del destino, la force du destin. Pourquoi ? Bah, c'est pour célébrer le Pichichi. Il a un sacré destin, Artem Dovbyk. C'est pour la première fois, c'est un Ukrainien qui est élu meilleur buteur du championnat espagnol, avec 24 buts. Je vous rappelle qu'il était, il avait été dépassé la semaine dernière par Sorloth, et là il en a claqué 3 lors du 7-0 face à Grenade. Et ça fait plaisir en fait, parce que bah, son destin, il est là. C'était pas quelqu'un de très connu, et puis là il est en train d'exploser en Espagne. Il a le Pichichi. Alors c'est l'occasion pour moi de vous raconter qui était Pichichi, ce que ça veut dire. Parce que Pichichi, c'était le surnom d'un joueur. Il s'appelait Rafael Moreno Aranzadi, joueur de l'Athletic Club donc de Bilbao, joueur né au 19e siècle, qui jouait dans les années 10 et qui, à l'âge de 29 ans, a arrêté le football pour devenir arbitre. Et au bout d'un an, il est mort après avoir mangé des huîtres avariées. C'est quand même dommage. Et voilà, c'est quelqu'un qui il était connu pour marquer beaucoup de buts. Et en 1953, quand le journal Marca, qui existait déjà, a voulu créer le trophée du meilleur buteur de la saison, il a fallu trouver un nom. Donc ils ont décidé, les journalistes, et souvent les journalistes ont de bonnes idées, de donner le nom, enfin le surnom de
Rafael Moreno. Ça colle bien, ça
s'appelle
bien.
Pichichi, voilà.
Ouais, le Pichichi. Alors,
et vous savez qu'il y a une tradition à Saint-Mamès, puisqu'il y a le buste de Pichichi à Saint-Mamès, et quand une équipe vient jouer à Saint-Mamès pour la première fois de son histoire, elle doit aller déposer, le capitaine de l'équipe, qui est visiteuse, doit aller déposer une gerbe de fleurs au pied du buste de Pichichi. La dernière fois, c'était l'Olympique. Enfin, la dernière fois qu'un club français l'a fait, c'était l'Olympique de Marseille.
Est-ce qu'il y a son nom chez vous, les amis, pour le meilleur buteur en Italie?
Non, c'est Capo Canoniere. Donc
Capo Canoniere, voilà, en Allemagne.
Le Torjäger Canoniere.
Magnifique canon. Et Julien, chez toi, c'est quoi?
Rien du tout, moi.
Rien du tout.
Il n'y a pas un sponsor
Harry Kane,
t'as raison, c'est Harry Kane. Voilà. Voilà, merci pour ta minute, Fredo. Hein. Les trois autres arrivent dans un instant. Je vous rappelle, Rodam, en exclusivité YouTube ce soir. C'est un événement. Nous sommes une émission de télé à 100% avec Johan Crochet, avec Fred Hamel, Paulo Breitner et Julien Laurence. Dans un instant, on va parler également du Bayer Leverkusen. Quelle ambition pour le Bayer, la liste de l'Espagne pour l'Euro. Paqueta qui risque 10 ans de suspension. Donc, ce serait carrière quasi terminée pour lui. Restez avec nous, les Drôles de Dames sont sur la chaîne YouTube de l'After. À tout de suite.